soir, vous êtes à l'écoute d'Imaginaire sur le 101.5. On est ensemble jusqu'à 22h. Au programme aujourd'hui, une chronique de Julien d'abord qui va nous emmener en République tchèque. Ensuite, les dernières lectures et visionnages de Jean-Hugues. Bess nous parlera de l'héroïne du film Hérédité. Et puis en deuxième partie d'émission, on écoutera l'interview de Patrick Newney qu'on avait rencontré aux dernières Utopiales. On commence tout de suite en musique avec Anorak, Long Distance Hearts, spéciale dédicace aux amoureux qui sont confinés dans des endroits différents. C'est un petit classique de la synthwave française, un extrait de la compile Valérie and Friends sorti en 2009.
Cette semaine, je vais vous parler du père de la littérature de science-fiction de Tchécoslovaquie. Connaissez-vous le tchèque Karel Kapec? Enfin, je dis tchèque, mais il est né juste dans le royaume de Bohême en 1890. Et oui, il y a 130 ans. Je dis ça pour celles et ceux qui sont fâchés avec l'arithmétique. Je réitère donc ma question. Connaissez-vous Karel Kapec? Je dois avouer qu'il n'y a aucune réponse dans le studio de votre part. Je n'en attendais pas moins de vous, bande d'ignares que vous êtes. Quoique j'ai bien cru entendre Jean-Hugues, avec sa grande érudition, qui me parlait de Tintin et les 7 boules de cristal. Jean-Hugues, tu confonds avec Raskar Kapatch. Mais ton intention était louable. Tiens, prends un bon point. Donc, Karel Kapatch était un romancier, dramaturge et photographe, en plus d'être un profond démocrate, ce qui, dans ce coin des Sudètes, aux alentours des années 1930, n'est pas chose des plus aisées à crier sur les toits. Mais comme il n'était pas hussard, il habitait sous le toit de sa demeure où il recevait chaque jeudi après-midi l'intelligentsia. Un peu comme nous, quand l'association se réunit pour l'un de ses chaos du soir. Pour peu que vous ayez été attentif à mes chroniques précédentes, vous vous demanderez « Mais bon sang, Julien, pourquoi nous parles-tu de ce sombre inconnu ?» Vous êtes impatients, chers auditeurs de Radio G, chers fidèles d'imaginaire. Patience, patience, j'y arrive. Connaissez-vous Isaac Asimov ? C'est un auteur mineur de la science-fiction. Je dis bien mineur sans prendre le risque d'offusquer les adorateurs de science-fiction qui sont assis avec moi autour de cette table et qui ont enfin l'air ravis qu'un courageux dise tout haut ce qu'il pense tout bas. Isaac Asimov, bof. Cet écrivaillon est né 30 ans après Karel Kapatch. Vous voyez enfin où je veux en venir ? Non ? Et ça aime la science-fiction. Bon, ça n'aime absolument pas les sciences mathématiques. Isaac Asimov, le père patenté des lois de la robotique, est né en 1920, il y a tout juste 100 ans, alors que dans RUR, R-U-R, acronyme de Rosumovi Universalni Robot, une de ses pièces de théâtre de science-fiction la même année, c'est important ça, alors je le répète, la même année, Karel Kapatch glissait sournoisement et pour la première fois le mot « robot ». Alors, je vous arrête tout de suite. Non, Karel Kapatch n'est pas l'inventeur du terme. C'est son frère aîné Joseph. Mais comme ce dernier était avant tout peintre, c'est-à-dire qu'il ne savait pas vraiment écrire, ben, Karel lui a chouré tout en ne revendiquant pas la paternité, ce qui peut être à la fois tout à son honneur ou la confirmation que les hommes sont de l'âge quand il s'agit de reconnaître un enfant, fut-il un bâtard, fut-il en deux mots, c'est du passé simple à ne pas confondre avec l'adjectif fut-il. Mais bon, comment est-il né ce terme de robot et d'où vient-il ? Eh bien, robota, en tchèque, veut dire travail. Si on recherche un peu plus loin l'étymologie, on ne manquera pas de noter qu'en slave ancien, rob veut dire esclave. Les robots seront donc amenés à être les esclaves des humains, et la pièce de science-fiction dans laquelle ils sont décrits dresse un constat révolutionnaire et apocalyptique. Non, Isaac Asimov n'a rien inventé. Signalons au passage que l'entre-deux-guerres est synonyme de récession dans une partie de l'Europe, et qu'il ne vous aura pas échappé que Ruhr est un homonyme de la région sidérurgique allemande. Il fut un temps, ce fameux entre-deux-guerres, où la littérature n'avait que très peu de frontières. La pièce, écrite en 1920, a été jouée en 1922 à New York et en 1925 à Paris. Depuis la fin de l'année dernière, elle est à nouveau disponible en lecture à la différence. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Signalons La guerre des salamandres chez Cambourakis, une satire anthropomorphique qui annonce quelques années plus tard la guerre des animaux de George Orwell, à ceci près que, comme dans Ruhr, l'auteur tchèque est au choix optimiste ou pessimiste quant à l'exploitation des masses, puisque tout se conclut par une révolte homérique et nihiliste. Enfin, puisqu'il nous faut parler un peu d'actualité, devrait paraître en mai, chez Noir sur Blanc, Le châtiment de Prométhée et autres fariboles, 29 récits apocryphes sur la faillite des démocraties occidentales face au totalitarisme. Heureusement, l'histoire ne se répète jamais. 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 Karel Kapatch était un drôle de visionnaire qui aimait les farces. La meilleure d'entre elles a peut-être été de faire un œdème pulmonaire avant d'être arrêtée en 1938 par la Gestapo. Ce démocrate éclairé, antifasciste primaire, a même été honni par le bloc soviétique après-guerre au motif qu'il était également anticommuniste. Un grand homme, un exemple et une littérature à redécouvrir. Sinon, comme Jean-Hugues, vous avez aussi un teint. Histoire de prolonger le confinement avec délices, je ne saurais trop vous recommander de regarder les films d'un autre Tchèque, Václav Borlíček. Lui, il est né en 1930, 10 ans après les robots, et son œuvre ubuesque propose parfois des clones à la Casino Royale, le film hors licence. Son œuvre a d'ailleurs été rééditée chez Malavida. Fin de l'agent W4C par l'intermédiaire de M. Futska est un modèle de farce d'espionnage. Qui veut tuer Jesse, dont Qui veut la peau de Roger Rabbit est une décalque. Et enfin, comment noyer le docteur Mrasek ou la fin des ondins en Bohème, qui revisite le thème des lois de la robotique. Avec en plus le brave soldat Žvejk, le roman de Jaroslav Hašek, vous aurez votre lot de culture tchèque joliment transgressive, sociale et anticipatrice. Souriez, vous êtes confinés. On espère que, comme les Tchèques, vous avez des provisions.
En République tchèque avec le groupe Esaz Leza, un extrait de leur EP Saint-Tropez. On continue sur le 100.5 avec la chronique de Jean-Hugues.
Ouais.
Félicitations, Reggie, c'est un calamar.
Le confinement a bouleversé la vie de milliards de personnes. Alors, personnellement, je vis au-dessus de ma boutique qui a le droit d'ouvrir, parce que c'est de la vapote, et je ne sors qu'une fois par mois habituellement pour venir faire cette émission de Radio Imaginaire sur Radio G 101.5. Concernant mes loisirs, je regarde des films, je lis des livres, je compte fleurettes à madame et j'explique des expériences de physique-chimie à mon ado préféré. Et je me lave les mains. Bon, alors là, plus que d'habitude, mais du coup, mes pages de livres sont totalement propres. Autant dire, je ne vois absolument pas la différence. Cher confiné, bonjour. Du coup, j'ai vu des trucs à la télé. Les deux premières saisons d'Homeland, par exemple, j'y suis allé avec appréhension parce que le thème me déplaisait. Un tireur d'élite américain, Nicholas Brody, qui s'est fait choper par l'ennemi irakien, qui l'a livré à Al-Qaïda. Mais 8 ans plus tard, il est délivré accidentellement par un commando de Delta Force. On le ramène chez lui, mais Carrie Mathison, une agent de la CIA, a appris d'un de ses indiques juste avant qu'il se fasse exécuter qu'un soldat américain avait été retourné et va se livrer à des attentats terroristes sur le sol de la nation. Et du coup, elle décide de surveiller Nicolas qui, à son retour au pays, retrouve femme et enfant. Une femme qui, 4 ans après sa mort officielle, a une liaison avec un autre soldat qui est le meilleur ami du mari. La fille est devenue une ado insupportable. Parce qu'il paraît que certains ados le sont, et le garçon n'a aucun souvenir de son père, et du coup l'idéalise. Carrie, elle, est une fine analyste de la CIA, et sous la protection de son supérieur. Mais malheureusement, elle est bipolaire. Mais personne ne le sait à l'agence, et pour cause. Bon, elle se soigne, hein, mais quand même. Hein, ça a l'air très con. Eh bien, détrompez-vous. C'est extrêmement malin et riche en rebondissements. On s'attache très vite à ces personnages torturés, dans les deux sens du thème, parce que prisonniers d'Al-Qaïda, c'est pas toujours des vacances. Les scénaristes ont fait un beau boulot. L'action est soutenue tout le long de ces deux saisons avec des cliffhangers dignes de 24 heures chrono. Je vous reviens quand j'ai vu les autres. J'ai vu aussi les deux premières saisons de Chicago Police Department. Tiens. Un truc que je trouve pénible dans certaines séries, ce sont les crossovers entre séries sœurs. Vous savez, comme pour Arrow et Flash et tout ça. Ben là, c'est pareil. Ça croise une ou deux fois par saison avec Chicago Fire, Chicago Med, New York Unité Spéciale et Chicago Justice. Bon, alors c'est sympa de croiser des personnages d'autres séries dans celle-ci, mais buter un personnage de ta série dans un arc de 2 épisodes où l'épisode 2 se trouve on ne sait où, c'est un peu crispant. À part ça, c'est extrêmement divertissant. On se trouve dans un des commissariats de Chicago, celui du district 21, où se trouve l'unité de renseignement commandée par l'ineffable Hank Voight, à la tête d'une équipe disparate et efficace. Bon, le truc est que Hank Voight a, par le passé, été convaincu de corruption et que c'est un indice des bœufs carottes du coin. Ça complique un peu, d'autant que Hank est un rebelle et qu'il est aussi corrompu que ta sœur. C'est bien fait, captivant, malin, perdez pas de temps. Au fait, Voight est un gentil pas simple, et il a effectivement fait quelques bêtises dans sa carrière. J'ai vu quelques films aussi, comme Terminator Dark Fate, dont vous pouvez vous passer sans aucun problème, et un truc débile mais rigolo d'action, Spencer. Un milliardaire engage une équipe de mercenaires pour lutter contre la corruption des riches. Oui, mais oui, c'est de la fiction, hein. C'est sympa et distractif. Puis, j'ai lu des choses aussi. Alors, attends, je retrouve mes notes. Alors, 2 tomes d'un truc pour ados, les chroniques de Kelton chez Flammarion Jeunesse par Jack Heath. L'auteur est australien et c'est une sorte de star là-bas pour plusieurs séries pour ados, dont celle-ci. Et on comprend pourquoi. C'est du thriller haletant, de bout en bout, qui a pour héros Charlie, un ado qui a créé dans le tome 1 l'appli Vérité, qui est le titre du bouquin, une appli qui détecte des mensonges. Quelqu'un vous ment et votre téléphone buzz. Vous imaginez le cirque. Inutile de dire que lorsque les niveaux de téléchargement s'affolent, ça crée un souk sans nom, mais pas sans danger pour son concepteur. Dans le tome 2, porté disparu, un avion s'écrase sur une maison du lotissement où réside Charlie. Et pas sur n'importe quelle maison, hein, et pas sans raison. Jack Hells a une créature dense extrêmement efficace, il n'est pas dénué d'humour. Je ne suis plus un ado, bon, depuis peu, il faut dire, et je conseille la lecture de ces 2 bouquins à n'importe quel âge. Vous trouverez des chroniques plus poussées de ces ouvrages sur le site Calibre de Julien Védrine. J'ai lu aussi Le chiffre de Cthulhu de Bram Stapleford aux saisons étranges, traduit par Catherine Rabi. C'est à ne pas rater, c'est à lire par tous les grands amateurs du mythe de Cthulhu, tout comme les aventures d'Arthur Gordon Pym de Poe, je n'arrête pas de le dire. C'est extrêmement érudit et met en scène le fameux détective français Charles-Auguste Dupin qui, accompagné d'aliénistes de différentes écoles, va tenter de débrouiller une affaire mettant en scène une folle qui se dise être Isolde Leonis. Le mythe de Cthulhu, les mythes celtes et l'histoire des pirates vont s'entremêler pour une aventure dont je ne suis pas tout à fait sorti. J'en ferai une chronique plus détaillée dans La tête en l'air sur le site imaginaire. Un peu d'archéologie avec John Dixon Carr, le maître du meurtre en chambre close. Maître du meurtre, pas mal. Avec une des premières aventures mettant en scène Gideon Fell, son obèse détective dans un roman de 1933 où le bonhomme s'est déplacé encore un peu avec deux de ses cannes pour supporter son poids. Une malédiction familiale de notables ruraux qui n'est pas sans rappeler le chien des Baskerville, mais sans le chien, où l'esprit de déduction du bonhomme va encore faire merveille à lire de manière plus précise dans le prochain La tête en noir. Enfin, j'ai plongé avec délice dans un cadeau que notre bien-aimé président a fait à ma charmante. Fais quand même gaffe, je surveille, Pierre-Marie. Un comic scénarisé par Craig Russell d'après le roman de Graveyard de Neil Gaiman, L'étrange vie de Nobody Owens. Le truc avec Gaiman est que son imaginaire est follement décalé et touche toujours au but. Un tueur égorge, elle est d'une bien étrange poignard, le couple, la fille et le bébé d'une maisonnée. Enfin presque, car le bébé qui est un petit peu particulier s'est enfui comme il pouvait et s'est réfugié dans un cimetière où il rencontre bien évidemment des fantômes, dont un couple qui va le prendre sous sa protection. Après l'arrivée temporaire de la maman du bébé qui avant de partir on ne sait où les a suppliés de le protéger. Le tueur décidément bien particulier lui aussi a réussi à suivre le bébé jusqu'au cimetière, mais va se faire accompagner à sa sortie par un bien curieux gardien. La reliure de chez Delcourt est composée de 5 ou 6 histoires de ce bébé qui va grandir et chacune touche juste sur la relation entre les êtres, la mort et des sujets qui touchent au cœur, à ne pas rater.
Un extrait de la musique du film Coraline, sorti en 2009, qui était l'adaptation d'un roman de Neil Gaiman. On continue sur le 101.5 avec la chronique de Bess.
Get away from her, you bitch!
I know my value. Anyone else's opinion doesn't really matter.
Mary Poppins, practically perfect in every way.
Spoilers. Après le fiasco Girls with Balls d'il y a 15 jours, j'ai décidé de regarder un bon film avec une héroïne digne de ce nom. Ce soir, je vais donc vous présenter Annie Leigh Graham, personnage principal du film Hereditary, réalisé en 2018 par Ari Aster. Ari Aster, retenez bien ce nom, car Hereditary est son premier long métrage et son second, c'est Midsommar, dont vous en avez entendu sûrement parler. Deux films de genre salués par la critique. Et monsieur ne s'embarrasse pas d'un casting à dessous, non, car notre héroïne, Annie, est superbement interprétée par Toni Collette. Ceci étant dit, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette pauvre femme. Annie est mariée, a deux enfants ados, Peter l'aîné et Charlie la plus jeune. Elle a un drôle de métier qu'on ne voit pas tous les jours. En effet, elle fabrique des maisons en miniature. des maisons de poupées en tout petit, avec des toutes petites figurines, du tout petit mobilier. Bref, un travail d'orfèvre qui demande énormément de talent et de concentration. Et pour Annie, tout commence à se barrer en cacahuète quand Hélène, sa mère, meurt. En fouillant dans ses affaires, Annie va trouver un livre de spiritisme dans lequel sa mère lui a laissé un petit mot. Effrayée, Annie va mettre ça de côté très vite. Afin de vivre mieux son deuil, elle va se rendre à un groupe de parole. Et là, on va apprendre le terrible héritage qui pèse sur elle. Son père fou s'est laissé mourir de faim quand elle n'était encore un bébé. Tandis que sa mère était atteinte de démence avant de mourir. Si vous voulez du sordide, vous apprendrez également que lors d'une crise de somnambulisme, Annie a failli foutre le feu à ses propres enfants. Ok, tout n'est pas rose dans la famille d'Annie. La question qui lui pèse est finalement la suivante. La folie est-elle héréditaire? Comment vivre avec ça en tête et comment jouer son rôle de mère surtout? Mais malheureusement pour Annie, pas le temps de se poser trop de questions, puisqu'une nouvelle tragédie va frapper la famille. La mort de Charlie. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vous avoue que c'est bien choquant. Et qui découvre le cadavre de sa fifille? C'est Annie, bien évidemment. Alors, on en parle du traumatisme sévère ou pas, là? Parce que la pauvre Annie, elle est complètement bouleversée. À peine le temps de se remettre de la disparition de sa mère qu'elle perd sa fille. Alors oui, je ne vous cache pas que notre héroïne va en plus crouler sous le poids de la culpabilité et de la responsabilité. Et quand le bizarre s'installe, alors là, ça part sacrément en vrille. La nouvelle amie d'Annie, qu'elle a rencontrée au groupe de parole, qui s'appelle Joanne, va lui apprendre une chose intéressante. Elle va lui apprendre à invoquer les morts. Ce qu'elle va s'empresser de faire en invoquant la défunte Charlie. À partir de là, c'est vision, apparition, cauchemar, somnambulisme à tous les étages. Charlie revient d'entre les morts et son message est quelque peu étrange. Peter, son frère, est particulièrement affecté par les situations. Mais Annie ne semble pas le concevoir. Elle est complètement centrée sur sa propre situation, ses propres démons, ses propres cauchemars et cette folie qui semble peu à peu la gagner. Mais alors qu'elle découvre le véritable héritage légué par sa mère, Annie se laisse complètement emporter. Dans quoi précisément? Je ne vous le révélerai pas ici car il faut vraiment découvrir ce film et sa révélation. Dans Hereditary, on a une héroïne vraiment singulière. Un personnage principal féminin, épouse, mère, endeuillée, rongée par les questions et le ressentiment. Toute son histoire va être de gérer ce qu'elle pense être son héritage. La folie qui se transmettrait au sein de sa famille, mais aussi un double deuil. C'est particulièrement la mort de sa fille qui la bouleverse et qui marque le point de départ de sa descente aux enfers. Annie ne se laisse pas faire, elle agit. Peut-être en gigotant un peu dans tous les sens, en pétant régulièrement des câbles, certes, mais on sent chez elle une force brute qui menace d'exploser à tout instant. Elle est simplement elle-même, avec son passé à assumer, sa famille, son histoire et ses fantasmes. Ari Aster nous propose un personnage qui sort des conventions des films de genre. Ici, pas de jeune fille qui s'enfuit dans les bois en criant, pas de meuf badass qui tabasse des zombies, ni de tueuse revancharde. Toni Collette campe un personnage tourmenté au possible. Et pour le découvrir, je vous invite vivement à regarder Hereditary. Et bien que l'ambiance musicale soit saisissante, je ne vous laisse pas avec la BO du film, que je vous laisse également découvrir, mais avec une chanson que je trouve assez prenante, Born to Die de Lana Del Rey.
So alone on the Friday nights, can you make it feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, honey. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. Long, carry on, try to have fun in the
We were born to die. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long. Carry on. Try to have fun in the meantime. We were born to die.
Retour aux Utopiales de Nantes maintenant sur le 101.5 dans l'imaginaire avec l'interview de Patrick Dionnet qu'on avait rencontré à cette occasion.
Bonjour Patrick.
Bonjour. Dionnet,
tu as vu le jour il y a 35 ans en Angleterre.
Oui.
Britannique, tu as pourtant grandi dans le Limousin et tu écris en français. Tu as débuté par de la poésie et du roman noir. Alors on peut en citer quelques-uns comme Crow et Cume, qui, alors c'est Cume qui a eu le prix Virilio, oui, en 2017, aux éditions La Manufacture des Livres. Et puis en 2018, tu t'es lancé dans la fantaisie avec le cycle de Sif, dont les deux premiers tomes sont déjà disponibles, hein, depuis 2018. Le cycle de Sif qui a raflé quelques récompenses, dont le Grand Prix de l'Imaginaire. Alors comment est-ce qu'on passe du roman noir comme ça à la fantaisie ?
En gros, moi, la fantaisie, c'est un peu ma littérature de référence, en vrai. C'est une littérature que j'ai étudiée à l'université, notamment. Et je crois que sur mon parcours d'écrivain, comme j'avais un peu un bagage théorique à propos de ce genre-là en particulier, j'ai toujours eu conscience qu'en fait, c'était difficile d'écrire une bonne fantaisie, en fait. En gros, parce que c'est deux fois plus de travail. Non seulement il faut poser une histoire qui tienne le lecteur en haleine, mais en plus il faut poser un univers qui soit cohérent, dans lequel poser son récit. Et du coup, j'ai préféré attendre de faire mes armes un peu sur d'autres formats. Donc c'est pas du tout pour dire que c'est moins abouti. Je pense que le travail que j'ai fait à la Manufacture de Livres, notamment, il est c'est un travail littéraire à part entière, mais disons que j'ai attendu de porter un projet de cette envergure-là, puisqu'on est sur une heptalogie, donc 7 tomes, en gros 15 ans de travail, quoi.
15 ans de travail. Ouais. Comment est-ce qu'on se lance une heptalogie aujourd'hui ? Ça fait pas peur aux éditeurs de dire ouais, j'arrive, j'ai un cycle, c'est pas 1, 2, 3, c'est avoir 7 romans. Comment est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui nous fait confiance ?
Je sais pas à quel point ce que je vais dire est extrêmement péremptoire, mais en vrai, à part le Diable Vauvert, je vois personne. J'étais le premier surpris, en fait, de tomber sur un éditeur qui non seulement avait été intéressé par le projet, mais qui m'a pas demandé d'en modifier la forme. Et qui est super enthousiaste justement par rapport à l'envergure du projet lui-même.
On peut en parler un petit peu du cycle de Sif.
Ouais.
Vas-y, présente-nous un petit peu cette histoire.
Pitch. Donc je vais plutôt parler du premier tome. Donc on commence en fait l'histoire du cycle, c'est l'histoire de Sif, donc qui est le personnage éponyme, qui est un jeune garçon au début du cycle. Il a un peu moins de 8 ans. Il vit dans un orphelinat improvisé à l'extérieur de la ville de Cornebrune, où en gros ils vivent de mendicité, ils peuvent compter sur un bol de soupe le soir et pas grand chose d'autre. Et Sif en fait habite donc, comme je disais, avec trois autres enfants. Parmi ces trois enfants, il y a Brindy qui est la seule fille du groupe, qui est un peu plus âgée, pour qui on va dire les autres nourrissent des sentiments un peu mitigés. Brindy joue un peu un rôle à la fois de matriarche, à la fois de grande sœur, à la fois peut-être d'intérêt amoureux. Et en fait, Sif, pour lui plaire, il décide qu'il va se mettre à lui faire des cadeaux. Et comme c'est un orphelin sans sou, il se met à voler. Et il se fait prendre. Et de là, il se fait embarquer tout à fait malgré lui, dans les intrigues politiques qui secouent la ville de Cornebrune et qui s'inscrivent dans un contexte géopolitique plus global, qui est en gros la mort du roi, en fait. Là, le livre débute, en fait, sur la mort du roi et la désintégration politique d'un très jeune royaume. Et c'est ça l'arrière-plan, en gros, du cycle. Enfin, un des arrière-plans, en tout cas.
D'ailleurs, on le sent dès le départ. Effectivement, c'est un cycle qui commence d'une manière très locale, très intimiste, finalement. Ouais. On suit des enfants qui sont hyper jeunes.
Ouais.
Ils sont vraiment très, très jeunes. On a rarement vu comme ça des histoires de fantasy ou même des histoires tout court qui commencent avec des enfants aussi jeunes.
Aussi jeune.
Et puis, on voit dès le départ, par les petits textes qui présentent les chapitres, qu'il y a un univers qui est quand même vachement plus vaste par rapport à ça. On sait déjà que ce sont des sortes de baronnies, en fait, des petits territoires avec des petits seigneurs, mais qu'autrefois, il y avait un grand empire derrière tout ça, qu'il y a un passé dans cet univers-là qui date de 5 ou 6 siècles. Et puis effectivement, il y a une histoire hyper récente où il y avait un roi conquérant qui a créé un royaume et puis qui s'est désunifié juste à sa mort et qui crée des problématiques politiques. Enfin, on voit qu'il y a déjà une base qui est hyper, hyper touffue. Et ce qui est marquant, c'est que quand on lit au départ, on a vraiment l'impression qu'on est dans de l'hyper-réalisme.
Okay.
C'est une démarche voulue ?
Ouais, clairement, moi je pense que ça rejoint plus ou moins ma démarche, enfin la démarche d'auteur que j'ai toujours eue, c'est-à-dire celle de faire du. On va dire d'avoir une approche matérialiste de mes textes, ouais. En tout cas en termes de construction des histoires et des personnages. Je pense que c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important, et je pense que c'est un angle assumé et voulu, et voir quelque chose que j'essaye de mettre un peu en avant. L'idée que, effectivement, je ne m'inscris pas dans une logique moraliste ou essentialiste. Je ne crois pas qu'il y ait de bien ou de mal fondamentalement, et je pense que chaque personne, chaque entité, chaque civilisation est le fruit de... d'événements, de sa propre histoire, de collisions avec d'autres êtres, personnes, etc. Et que c'est important de montrer ça parce que ça permet en fait de traiter en sous-texte beaucoup de questions d'ordre plus philosophique. Par exemple, moi, un de mes chevaux de bataille depuis que j'écris, ça a toujours été par exemple la question de la nature humaine, qui est récurrente, qui est une sorte de concept fourre-tout qu'on utilise encore aujourd'hui et qui en sciences humaines a été invalidé il y a plus de 60 ans, quoi. Enfin, on sait que l'être humain, la seule... d'un point de vue purement scientifique, la seule nature qu'on veut bien accorder à l'être humain, c'est celle d'être extrêmement plastique, quoi. Et en dehors de ça...
D'ailleurs, on le retrouve aussi à travers les différents thèmes, parce que mine de rien, tu abordes beaucoup de thèmes qui peuvent être soit classiques, mais soit aussi très, très présents. Moi, je pense par exemple, évidemment, on aborde le thème de la guerre, donc il y a avec tout ce qu'il peut avoir. Donc c'est aussi un jeu géopolitique qui doit t'amuser en tant qu'écrivain, mais qui intéresse beaucoup le lecteur. Mais il y a des choses beaucoup plus intimistes. D'une certaine manière, tu coches toutes les cases des clichés de la fantaisie, mais sans du tout les reproduire d'une manière embêtante. Il y a un enfant, il y a un roman d'apprentissage, il y a une histoire d'amour, il y a quelqu'un qui va avoir un destin exceptionnel alors qu'il part de rien. On peut penser à Robin Hood avec son assassin royal, mais c'est pas pareil. Et je vois par exemple que tu as beaucoup parlé de la condition féminine aussi.
Ouais,
alors,
j'essaye.
Oui, mais on le ressent à travers Brindy finalement, qui est un peu au départ une figure évanescente, une sorte de d'idéal pour le héros Sif. Et puis elle a un destin qui est quand même pas si rigolo que ça, et ça écorne un peu l'image que lui peut en avoir.
Ouais.
Donc il y a une évolution par rapport à ça. Tu peux
complètement,
en parler?
Ouais. Ouais, ouais. Mais enfin, je pense que l'avantage, enfin, pour dire les choses, moi, j'ai toujours, enfin, on m'a toujours prêté une écriture sociale. Moi, j'ai toujours plus ou moins assumé d'avoir une écriture politique. Je pense que la littérature est, de façon plus large, l'artiste a un rôle social qui est d'interroger la société dans laquelle il vit et que. Ben, si on veut faire ça, ouais, on traite des thèmes qui sont d'actualité dans la société. Et moi, je crois que l'avantage de, c'est quelque chose que j'ai toujours fait en fait dans mes livres, c'est d'avoir cet angle, on va dire au moins questionnant. L'avantage avec le cycle, c'est que du coup, comme j'ai vraiment un volume de textes important. Je peux avoir une démarche beaucoup plus pédagogique que ce que je pouvais avoir auparavant. Et autant ce que j'ai pu écrire, par exemple, à Manufacture, c'est des textes qui sont assez rentre-dedans du point de vue de... On pourrait même dire dénonciateur. Dans la saga, je vais prendre mon temps, je vais essayer d'introduire des thèmes au fur et à mesure. Par exemple, tu parlais de la condition féminine, y a quelques lectrices qui m'ont reproché l'absence de personnages féminins dans le premier tome notamment. Et en fait, c'est voulu. C'est-à-dire qu'on est, ce que j'essaye d'instaurer dans ce premier tome, c'est effectivement l'idée qu'on se trouve dans une société proto-féodale, qu'on devrait certainement aussi qualifier de patriarcale, donc une société où les femmes, sont reléguées à des rôles extrêmement secondaires où elles sont de fait invisibilisées.
Alors il y a quand même dans le premier tome une petite fille, oui, qui est exactement l'inverse de ce que tu veux dire.
Ouais. Il y a Drish, ouais. Drish, elle est, c'est une fille des clans, donc pour le coup c'est une culture tout à fait différente où effectivement les hommes et les femmes sont plus ou moins libres, ou en tout cas n'occupent pas les rôles genrés qu'on peut trouver dans la société brunide.
Ouais. Ouais, on ne sait pas d'ailleurs si c'est un patriarcat, c'est pas très clair.
Non, enfin, je crois que c'est plutôt, plutôt équilibré. Les clans, c'est assez pragmatique, quoi. C'est en gros, je dis ça dans le bouquin, en gros, si une fille tire mieux à l'arc que son frère, c'est elle qui hérite de l'arc et c'est elle qui devient la chasseresse de la famille, quoi.
Et puis d'un autre côté, effectivement, il y a toute cette violence faite aux femmes on voit beaucoup la prostitution, ouais, dans le cadre de la guerre, mais au-delà de ça, le rôle des femmes dans les guerres, ce que va devenir aussi Brandy, son destin, mais aussi dans le deuxième tome, c'est Brianna, jeune femme qui est d'un haut rang social, mais qui a beaucoup de contraintes.
Ouais. Brana, elle est, c'est l'exemple presque type, en gros, de la femme de haut rang qui s'extrait pas de sa condition de genre et qui, en gros, est promise à des mariages politiques et qui, pour le bien de son peuple, malgré tout le poids que ça fait peser sur elle, elle va quand même plus ou moins, elle va accepter ce destin-là, en fait. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de mettre aussi en scène des problématiques sans les rendre trop caricaturales. Je pense que ça aurait été, si je m'étais écouté, je pense que j'aurais fait partir Brianna avec Sif. Et en tout cas, elle serait échappée de sa condition, mais le fait est que les normes sociales qu'on porte, elles sont appropriées par tous, y compris les gens qui sont opprimés par ces mêmes valeurs.
Alors c'est vrai qu'en tant que lecteur, on se demandait justement si Brianna allait partir, et puis on avait un peu cette envie-là. Après, en revenant à ton écriture, donc c'est cette sorte d'hyperréalisme qu'on peut pas comparer, par exemple, à Game of Thrones. Game of Thrones, justement, je pense que la grosse différence entre Game of Thrones, par exemple, et puisque toi tu proposes, c'est justement que là, il y a rien de gratuit chez toi. Il y a toujours une réalité. Il y a pas une surenchère de violence pour la violence. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué personnellement dans le premier tome, c'est quand Sif il va faire sa première bataille et qu'il va tuer un homme. Alors premier meurtre, mais dans la première bataille il tue un homme qui va avoir une première réaction en disant j'ai un fils de ton âge. Elle est très frappante, cette scène. elle est très frappante et ça veut dire aussi quelque chose. Il y a le thème. Est-ce qu'on voit souvent des enfants tuer des gens dans les romans de fantasy aujourd'hui?
Je sais pas, je crois pas. Ouais, après, ouais. Je pense que c'est, enfin, quand tu parlais de réalisme tout à l'heure, enfin, du coup, le livre évidemment s'appuie sur pas mal de recherches historiques. Et moi, je suis un peu un passionné d'histoire. Je passe un peu mon temps, à lire à peu près tout ce que je peux. En fait, la réalité de la guerre au Moyen-Âge, c'était qu'il y avait c'est pas la majorité des troupes, mais à partir de 13 ans, en fait, on était susceptible d'intégrer un corps armé et de se retrouver dans une bataille, quoi. Donc, et puis j'ai lu aussi beaucoup de choses. Alors ça venait un peu avant aussi, mais sur la condition des enfants soldats. Aujourd'hui, en Afrique, j'ai lu pas mal de littérature là-dessus aussi et de quelques études aussi. C'était un thème que je trouvais pertinent de développer. En fait, moi, ça rejoint un discours un peu plus global sur la violence, qui, pareil, c'est un peu un fil conducteur dans mes œuvres. Je crois que je m'attache pas mal à défaire certains poncifs du genre, notamment par rapport à ces choses-là, c'est-à-dire en gros l'image du bon guerrier, quoi. On est dans une société qui est à la fois extrêmement détachée de son propre rapport à la violence, y compris jusque dans la violence qu'elle exerce pour se nourrir, par exemple. Et il me semble que, paradoxalement, de l'autre côté, on est dans une sorte d'esthétisation de la violence. C'est un thème qui est absolument central dans la vaste majorité de nos fictions, quel que soit le format. Et je crois que, je m'évertue à essayer de dépeindre ça de façon assez, aussi réaliste que je peux le retranscrire, en fait.
Ouais, on le sent, effectivement, il n'y a pas de héros dans cette histoire. Y a, comme je dis, tu coches les cases du cliché, mais en fait, c'est pour mieux les démonter. Uldric, okay, qui à un moment donné, dans le premier tome, prend justement Sif sous son aile, mmh, et il va le former pour devenir un guerrier. Il va pas devenir le guerrier qu'il pense, puisque d'abord il n'a pas la carrure, il a été mal nourri, mais surtout la manière dont Uldric le forme, c'est pas du tout le mentor bienveillant qu'on connaît, et c'est extrêmement violent, ça aussi, cette réalité qui arrive en pleine phase de Sif, alors que Uldric le prévient pourtant, il dit tu vas voir, tu vas me détester.
En fait, ça rejoignait une réflexion un peu plus globale sur les questions de liberté, d'émancipation, et comme donc la culture var de laquelle Uldric est issu repose en gros sur le fait que les individus qui la composent se doivent d'être émancipés, j'avais conçu en gros la manière dont ils formaient leurs guerriers. C'était en gros de les pousser à bout sous l'égide d'une figure d'autorité, jusqu'à ce qu'en gros ils aient pas d'autre choix que de se rebeller contre les figures d'autorité, en fait.
Et il y a beaucoup de choses aussi, il y a le racisme aussi qui est super présent dans tes thèmes. Et est-ce que c'est quelque chose que t'as, qui va parler plutôt du présent pour toi? Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles en tant que thème qui résonne avec aujourd'hui notre époque, ou c'était aussi présent dans la société médiévale?
Je pense que c'était beaucoup moins présent dans la société médiévale, parce que contrairement à la vision fantasmée que pas mal de gens peuvent avoir des réalités du Moyen-Âge, on était sur des structures politiques qui étaient beaucoup plus désintégrées, en fait. Il y avait tellement, même au sein d'une même région, de paramètres culturels différents, qu'en gros le eux contre nous, il était assez difficile. En fait, le seul truc qui a réussi à dépasser ça au Moyen-Âge, c'était la religion, donc c'était les guerres de religion, mais on va dire je pense que la xénophobie d'une façon générale devait être assez répandue, mais comme en fait on se trouvait sur des entités politiques très locales, avec un rayonnement presque insignifiant, quoi, de l'ordre de, en gros, on détestait le mec de la ville d'à côté, quoi. On n'était pas vraiment dans une haine de l'étranger en tant que...
C'était pas systémique.
Je pense que c'était pas systémique. Je peux me tromper, je suis pas spécialiste de la question. Mais après, oui, pour répondre plus globalement à ta question, Comme je disais tout à l'heure, moi je crois que le rôle de l'artiste c'est d'arraisonner les thématiques qui traversent la société dans laquelle il habite, et clairement aujourd'hui ouais, la xénophobie ouais, en fait partie, ouais.
Alors il y a aussi de la magie un petit peu, il y a des mystères auxquels t'as pas répondu en deux tomes, puisque de toute façon j'imagine que tu vas prendre ton temps pour répondre. Et alors le prochain tome, tu as dit, ça sera sans doute pour 2020.
Ouais.
Tu peux nous parler un peu de cette trajectoire de Sif, parce que ce qui m'a aussi surpris, c'est que finalement sa jeunesse ne dure qu'un tome.
Ouais.
Qu'est-ce que tu vas mettre dans les 6 tomes d'après, en tout cas les 5 prochains?
Eh ben pour moi le premier tome, en fait, j'ai vraiment conçu une sorte d'introduction à l'univers. Le deuxième pose pas mal de bases par rapport à l'histoire que je vais raconter. Dans le troisième, bah écoute, je sais pas, je te divulgage, comme on dit.
Non, pas divulgage, mais mets-nous en appétit.
Ok. Bah, je crois en gros, on va être déjà l'exploration on va continuer dans l'exploration des thèmes dont on vient de discuter, avec déjà des personnages qu'on va retrouver, qu'on a laissé derrière nous, soit au premier tome, soit au deuxième tome, et qui vont recroiser la route de Sif. On va aussi en découvrir de nouveaux, et on va rompre un peu avec, on va dire, le modèle narratif dans lequel on se trouvait, où en gros Sif passait plus ou moins par des étapes transitoires, avec des personnages qui appartenaient à ces étapes transitoires, et donc on laissait derrière lui. Dans le tome 3, Sif va commencer à faire des racines. Voilà.
D'accord. Ouais,
ça donne
envie.
À la fin de cette interview, il va y avoir une musique qui va passer. Okay. Tu as le droit de la choisir.
Ah ouais ?
Ouais,
d'accord.
Ouais.
Trop bien. Board Up the House de Genghis Tron.
Très bien. Bah, je te remercie. Ça a été un plaisir de t'avoir pour Radio Géo sur 1.5.
Je t'en prie.
Merci.
Radio G 101.5 FM. www.radio-g.fr